Dutrisac.
Même si tous les chapeaux lui font, il ne parle jamais à travers son chapeau. Vous écoutez
Dutrisac.
Dans le Journal de Montréal, dans la page en 5 minutes, on explique qu'il y a au moins 100 000 soldats russes qui sont postés près de la frontière avec l'Ukraine, à tel point que l'OTAN et les États-Unis craignent une invasion qui pourrait impliquer au final 175 000 militaires. Et dans la presse, il y a Justin Coulon aussi qui a produit une lettre ouverte. Et Justin Coulon du Centre d'études de recherche internationale de l'Université de Montréal. Justin, bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Alors, merci d'être avec nous. D'abord, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Qu'est-ce qu'on doit savoir? Et pourquoi s'intéresser à ce qui se passe avec la République de l'Ukraine?
Ben, écoutez, d'abord, l'Ukraine est en Europe, évidemment, entre l'Europe occidentale et la Russie. C'était avant une des républiques de l'Union soviétique. Quand l'Union soviétique a éclaté en 91, il y a 15 nouveaux pays qui sont nés. Un certain nombre de ces pays-là sont devenus membres de l'OTAN ou de l'Union européenne, et l'Ukraine a toujours demandé à devenir membre de l'OTAN ou de l'Union européenne pour pouvoir assurer sa sécurité. Les Russes se sont toujours opposés à ce que l'Ukraine intègre l'OTAN, et c'est pas seulement Poutine, mais c'était Gorbatchev à l'époque, ensuite Boris Eltsine pendant les 10 ans de son mandat, puis évidemment Vladimir Poutine depuis une vingtaine d'années. Et là, aujourd'hui, on est dans une crise parce que les Russes estiment que la frontière de l'OTAN s'approchent de leurs frontières, et si jamais l'Ukraine devenait membre de l'OTAN, ça voudrait dire, théoriquement, que les armées de l'OTAN seraient à 300 kilomètres de Moscou, alors qu'avant, elles étaient à 1200 kilomètres de Moscou. Alors, ça rend les Russes nerveux, brutaux, et donc, ils posent des conditions à l'OTAN pour que l'intégration de l'Ukraine ne se fasse pas.
Est-ce que en lisant votre texte, Jocelyn, je me disais, et ça, on peut comprendre la réaction de la Russie là, parce que c'est dans leur cour arrière. Là. L'OTAN serait vraiment à la frontière.
Alors imaginez quelque chose comme, et c'est la réalité. Aujourd'hui, les Américains et les Européens sont bien positionnés face à la Russie. Les Américains ont des armes nucléaires en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas et en Turquie, pointées sur la Russie. Il n'y a pas d'armes nucléaires russes déployées au Mexique ou au Canada. Et la dernière fois qu'il y a eu des armes nucléaires russes pointées sur les États-Unis, à quelques kilomètres de là, c'était à Cuba au début des années 60. Et évidemment, il y a eu une crise énorme, comme vous le savez, la crise des missiles de Cuba. Et ça s'est réglé par le retrait des missiles nucléaires de Cuba, mais aussi, ce qu'on oublie, le retrait de certaines fusées américaines en Turquie. Alors, tout le dispositif de l'OTAN apparaît pour les Russes menaçant. L'OTAN dit « Non, nous, on n'est pas menaçants, mais... » Sauf que les Russes voient la frontière de l'OTAN avancer d'année en année. Et donc, elle n'a pas confiance. Mais évidemment, vous avez un leader autoritaire qui est là-dedans. Mais on peut effectivement se mettre dans les souliers de Poutine et des Russes et de se dire, il faut qu'à un moment donné, ça arrête.
Ouais. Il y a, vous écrivez à Justin Coulon, au cours des 30 dernières années, plus d'une quinzaine de 15 ex-pays d'Europe de l'Est et l'Union soviétique ont fui la dictature soviétique en rejoignant l'Ouest. Quel est l'intérêt de l'Ukraine de vouloir s'affranchir et même s'opposer à la Russie, là? On sait qu'il y a eu une espèce de révolution, d'émeute, en tout cas en 2013. Ouais. Ça a été assez sanglant, d'ailleurs.
Oui. Alors évidemment, l'opinion publique ukrainienne, au tout début, dans les années 90, même jusqu'au milieu des années 2000, était largement défavorable à une union avec l'OTAN et avec l'Union européenne. Mais évidemment, la politique ukrainienne oscillait entre rester dans l'orbite russe ou plutôt tenter de basculer à l'ouest. Et c'est finalement ceux qui sont en faveur d'un basculement vers l'ouest qui ont gagné l'épreuve de force en 2014 et qui sont au pouvoir depuis ce temps-là. Sauf que la Russie, je ne crois pas qu'elle s'oppose fondamentalement à ce que l'Ukraine ait de bonnes relations avec l'Ouest, mais elle dit sur le plan militaire, l'Ukraine doit être exempte d'une relation trop suivie avec l'OTAN. Mais c'est pas nouveau, ça. Il y a des pays qui ont réussi à maintenir de bonnes relations avec l'Ouest et avec la Russie. Mmh. Je parle en particulier de la Finlande, mais aussi de l'Autriche, qui est aujourd'hui un pays neutre et qui, donc, n'est pas membre de l'OTAN. Et pourquoi on n'essaierait pas d'imaginer un système de sécurité européen où, oui, il y a l'OTAN d'un côté, la Russie de l'autre, mais dans le milieu, une Ukraine qui serait neutralisée tout en ayant des bonnes relations avec les deux côtés.
Mais là, dans votre texte, Jocelyn, vous écrivez l'Ukraine doit revenir sur terre là, parce qu'on peut pas, il y a personne qui va aller, il y a pas un pays qui va aller en guerre avec la Russie.
Il y a personne qui va venir défendre l'Ukraine. Biden l'a dit, l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN, c'est pas un allié, c'est un partenaire. On va lui vendre des armes, mais des armes de petit calibre. Et les Occidentaux ne sont pas intéressés à une épreuve militaire avec la Russie. Donc, dans ces conditions-là, essayons de négocier quelque chose qui va permettre à tout un chacun, à l'ouest, au centre et à l'est, d'être dans une position de sécurité, parce que c'est ce que tout le monde demande. Alors, c'est là que la diplomatie intervient. M. Blinken, le ministre américain des Affaires étrangères, va rencontrer son homologue russe demain à Genève. Il y aura des discussions. On espère que les choses vont avancer. Moi, je suis assez optimiste parce que les Américains ont déjà répondu favorablement à plusieurs des demandes de la Russie.
OK. Ce matin, Kamala Harris était à CBS, Jocelyn, et elle dit si Poutine agit de quelque façon que ce soit, il y aura des conséquences sévères et rapides. Est-ce que c'est de la bouillie pour les chats? Est-ce que c'est des relations publiques? Est-ce que c'est juste de jouer au matamor?
Il y a beaucoup de ça qui sont des relations publiques. Hein. Chacun dit on va être très ferme envers la Russie. Tous les ministres des Affaires étrangères de l'OTAN ont la même ligne puisqu'ils se sont concertés avant de publier leur déclaration. Mais dans les faits, l'OTAN est divisée dans sa relation avec la Russie, en particulier la France et l'Allemagne, qui veulent se montrer plus accommodants. Alors, que Mme Harris dit ça, ça ne me surprend pas, d'autant plus que ce dont elle parle, ce sont des sanctions économiques. Mmh. C'est pas une offensive militaire. Mmh. Donc, il y aura des sanctions économiques contre la Russie. Maintenant, vous imaginez bien que Poutine a déjà fait ce calcul-là et que s'il avait voulu envahir l'Ukraine, il l'aurait fait depuis longtemps.
Ouais.
Donc là, il fait monter la pression. Et si jamais il devait entrer en Ukraine, il y aurait des sanctions économiques. Mais les Russes sont de plus en plus intégrés avec la Chine et avec d'autres pays d'ailleurs, et sont capables de résister à ces sanctions-là.
OK. En conclusion, Jocelyn, il ne faudrait pas négliger non plus le Canada. Là, on apprend aussi qu'il y a une frégate canadienne qui est basée à Halifax qui va prendre le large. Encore là, c'est quoi? C'est du tourisme qu'on va faire?
Est-ce
qu'on...
D'abord, on risque d'arriver trop tard. Oui. Parce que si jamais les Russes rentrent en Ukraine vendredi ou samedi, la frégate devrait mettre à peu près 10-15 jours pour arriver là où elle veut être. C'est un signal de solidarité, mais dans les faits, ça ne représente pas grand-chose.
Donc, c'est pas la cavalerie qui débarque, là?
Non, ben, on n'est pas très fort.
Non. Est-ce que, en conclusion, est-ce que vous craignez une guerre réellement, là, de une invasion russe en Ukraine, puis vraiment que ça dégénère?
Que ça dégénère, non. Parce que le conflit va rester localisé à l'Ukraine. C'est sûr que les Ukrainiens vont se défendre. Ils vont être vaincus, mais ça dépend de l'envergure de l'invasion. Si c'est simplement pour consolider ce que les Russes ont déjà en Ukraine, ben ça n'ira pas très loin. Mmh. Je pense pas que Poutine a envie d'envahir le pays dans sa totalité. Il y a quand même 45 millions d'habitants en Ukraine. Mmh.
Parfait. On se laisse là-dessus. Jocelyn Coulon, merci pour ces explications. On va voir ce qui se déroule d'ici la fin de semaine, j'imagine.
Merci, au revoir.
Merci, salut.